Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la Méditerranée et bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Un nouveau numéro de Cantara, plus beau, plus fort et plus pertinent grâce à son équipe incontournable qui regroupe Imen Wenzar de Radio Exterior d'Espagne, Nadia Rebelkhotou de Chaîne Terraba, Maya Dassili de Radio Tunis, chaîne internationale, Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2, Pierre-Louis Alessandri et Pierre-Louis Sardi de France Bleu RCFM en Corse, Viola Trafidi de Radio Palestine Internationale et moi-même au micro et en direct de la capitale égyptienne, Dina Abdelmeki de Radio Le Caire. Au sommaire de cette édition, la politique de l'occupant israélien consistant à imposer des barrières militaires entre les villes palestiniennes est devenue la principale raison de priver les Palestiniens de leur vie. Viola Trafidi nous propose le barrage de l'oppression, la 46e session de l'Académie du Royaume du Maroc pour explorer l'Asie comme l'horizon de pensée avec Nadia Rebelkhotou. Pierre-Louis Alessandri a rencontré Jacques Orsoni, professeur émérite de l'Université de Corse, qui parle de son regard sur la Méditerranée dans son livre « Le ciste et le jasmin ». Le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, réuni du 9 au 14 décembre 2019 à Bogota, en Colombie, a inscrit les connaissances, le savoir-faire, les traditions et pratiques associées aux palmiers dattiers sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Maya Dassili a rencontré M. Boubacar Ouman, universitaire et militant écolo. Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2 nous invite à une exposition Beyrouth-Beyrouth où elle a rencontré Fatia Ahmad, photographe. Qu'est-ce qu'une traduction féministe? Est-ce un nouveau courant? Réponse avec Touraya Fidi Toulon, maîtresse de conférence à l'université Lyon 2, spécialisée en littérature francophone et comparée et traductrice féministe. Au micro de Mona Farid de Radio Le Caire, qu'il a rencontré dans le cadre d'une conférence donnée à l'IFE.
Cantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Le Caire, Radio Publique Libanaise, Radio France Radio Bleu Frequenza Mora, RTCI Tunis, Maroc Inter, et Radio Exterior d'Espagne.
On commence notre tour méditerranéen par la Palestine. La politique de l'occupant israélien consistant à imposer des barrières militaires entre les villes palestiniennes est devenue la principale raison de priver les Palestiniens de leur vie. Viola Trafidi a rencontré Mohamed Harara de la bande de Gaza qui a perdu son fils à cause des procédures arbitraires de l'occupation israélienne. اللي على حبها ما يختلف اثنين بيني وبينها عشق وصار لسنين اعشق سماها وهي القلب والعين هي حبيبتنا حبيبتنا فلسطين. Les mélodies de l'aube dans le ciel de la Cisjordanie occupée s'infiltrent par les fenêtres des maisons pour réveiller les habitants. Les réveiller afin de courir contre le temps pour se rendre à l'école, à l'université ou au travail. Cette course est tributaire des points de contrôle militaires israéliens qui entravent quotidiennement le mouvement des Palestiniens. Depuis les débuts de l'occupation israélienne de la Palestine, une occupation qui a créé l'un des moyens de punition collective les plus cruels, représentés par des points de contrôle militaires étendus sur tous les points de passage de tous les villages et les villes palestiniennes. Leur nombre a dépassé les 500 points de contrôle équipés de matériels électroniques et de chiens dressés, chargés d'inspecter la sécurité des bagages, du personnel et des divers moyens de transport. Ces barrières ont été et continuent à être une cause majeure de préjudice pour les Palestiniens sous divers aspects, sociaux, économiques, commerciaux, éducatifs, culturels, sanitaires et essentiellement psychologiques. Ces barrières ont rendu tous les centres de population palestiniens isolés les uns des autres, ou, laissez-moi dire, des enclaves fermées et assiégées.
Les points de contrôle israéliens sont l'un des pires phénomènes de violation des droits de l'homme. Moi-même, je vis dans un pays entouré de murs d'annexion et de frontières. J'habite à Ramallah, alors que ma famille habite à Al-Quds. Pour rendre visite à ma sœur, je dois d'abord obtenir un permis d'entrée auprès des autorités israéliennes pour accéder à Al-Quds. Puis, franchir plusieurs points de contrôle de l'armée israélienne, dont le plus important est le point de contrôle de Qalandia, créé par l'occupation en l'an 2000 et qui sépare les Cisjordanie occupée par Al-Quds.
ما تدري بعثراتي ونمشي عسى الله نلحق ضعني الأحباب.
La politique de l'occupant israélien consistant à imposer des barrières militaires entre les villes palestiniennes est devenue la principale raison de priver les Palestiniens de leur vie. Certains Palestiniens sont tombés martyrs alors qu'ils attendaient dans l'ambulance pendant des heures sur les barrières et les forces israéliennes les ont empêchés de traverser. Cependant, le cas le plus difficile est celui de la perte d'une famille d'un enfant de 3 ans parce qu'il aura été refusé d'accéder à l'hôpital Maqasid d'Al-Quds afin de prodiguer le soin nécessaire qui aurait permis de sauver la vie de cet enfant.
Je suis un citoyen de Gaza, je m'appelle Mohamed Saqr Harara. J'ai 2 enfants atteints d'une maladie de foie et le seul soin est l'implantation d'un foie. Mon fils Abdel Karim a eu des complications à l'âge de 2 ans. Il avait besoin d'une opération dans l'estomac parce qu'il souffrait d'une hémorragie aiguë. Il est censé se faire opérer dans l'hôpital Maqasid à Al-Quds après que l'autorité palestinienne ait fait le nécessaire pour le transfert, mais l'occupant israélien l'a empêché d'effectuer le déplacement avec sa mère qui l'accompagnait 5 fois de suite. Sachant que sa grand-mère est malade, elle ne peut pas l'accompagner, ce qui a compliqué sa maladie pendant une année entière. Et nous avons toujours tenté d'avoir une autorisation de l'occupant pour nous déplacer, mais en vain. Et mon fils est décédé suite à l'aggravation de sa maladie le 31 mars 2019 à l'âge de 3 ans. Et mon deuxième fils, Mohamed, 6 ans, souffre de la même maladie et lui aussi a besoin de voyages pour se faire soigner à l'extérieur de la bande de Gaza pour lui implanter un foie, mais les Israéliens refusent de nouveau de lui donner l'accord. C'est ça la pratique de l'occupation vis-à-vis des malades de Gaza. Petits et grands, ils se fichent de leur vie. On a tenté à plusieurs reprises d'obtenir l'accord pour le voyage à travers les checkpoints israéliens, mais ces derniers nous empêchent volontairement pour que les malades meurent avant d'être soignés. Ils sont dénués de toute humanité, surtout avec les malades. Et nous, dans la bande de Gaza, on perd nos enfants à cause du blocus que subit notre bande. C'est ça l'horrible occupation sioniste avec les gens qui souffrent à Gaza.
التي يمارسها الاحتلال اتجاه المرضى في قطاع غزة.
عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو.
Kantara, une autre idée de la Méditerranée.
La 46e session de l'Académie du Royaume du Maroc pour explorer l'Asie comme horizon de pensée, expérience de modernisation et de développement à travers 3 séquences, la Chine, l'Inde et le Japon. L'Académie du Royaume du Maroc poursuit ainsi son exploration des grandes régions du monde en vue de créer des passerelles entre les intellectuels des deux bords et favoriser l'échange, le dialogue, les expériences diverses dans la perspective d'une approche pluridisciplinaire. Plus de détails avec Nadira Belkhoutout de Chaîne Interrabat.
Quand les académiciens des cinq continents se retrouvent, le plaisir de la prospection des horizons de la pensée est au rendez-vous. Cette session, la 46e de l'Académie du Maroc, était consacrée au Japon et à son mode de développement. Monsieur Abjil Hajmri, vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie. Pourquoi l'Asie ?
Aujourd'hui, c'est la troisième phase de la session de l'Académie du Royaume, de la 46e session de l'Académie du Royaume sur l'Asie comme horizon de pensée. Nous avons déjà fait 2 jours, comme vous le savez, sur la Chine. Il y a eu 2 jours sur l'Inde. Et aujourd'hui, nous commençons les 2 journées de réflexion sur le Japon. Et la modernisation du Japon est un modèle extrêmement important. Pendant ces 2 jours, nous recevons aussi bien Madame Dankos et Monsieur Zin qui viennent apporter leur soutien aux travaux que nous faisons, mais en même temps, des experts japonais qui vont nous expliquer comment le Japon s'est modernisé et arrivé à devenir une des grandes puissances.
Les académiciens, on le sait, ont la pensée aussi large que le monde. La culture arabe en Orient et en Europe s'est invitée d'elle-même au débat. Comment la pensée arabe est-elle vécue ailleurs que dans le monde arabe, Madame Hélène Carrère, vous qui êtes la secrétaire perpétuelle de l'Académie française?
Nous sommes évidemment très proches d'une académie à l'autre, d'abord parce que nous avons un patrimoine culturel commun auquel nous sommes en France profondément attachés. Nous avons eu la grande joie de couronner Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Maroc il y a juste quelques jours. Il a reçu le Grand Prix de la francophonie, c'est dire que nous avons en commun un grand amour de la langue française. Nous ne sommes pas de grands arabisants, mais nous avons la passion de la culture arabe. Votre culture est pour nous une part de la nôtre. Et la coopération entre nos académies est quelque chose de très important. L'Académie française a d'ailleurs dans ses rangs un Libanais, c'est vous dire que c'est tout à fait nouveau. Mais le monde arabe est présent parmi nous et la langue arabe est présente parmi nous. Nous avons couronné d'autres écrivains arabes, dont Kamel Daoud. Véritablement, nous avons le désir d'aller le plus loin possible dans cette coopération qui nous permet de nous comprendre. Nous nous comprenons beaucoup, je crois. Mais ça nous permet d'aller plus loin dans les travaux communs, dans la réflexion commune. Nous vivons un monde très compliqué, où véritablement il y a une rupture totale et où c'est seulement par une réflexion que nous pouvons comprendre le monde dans lequel nous sommes. Par conséquent, nous sommes là pour ça. Et je dois dire, je suis très émue à l'idée que nous soyons présents ici aujourd'hui, le jour où vous installez cette commission qui réfléchit sur l'avenir du Maroc. Nous avons le sentiment que c'est un grand privilège justement de voir ce grand pas que vous franchissez. Nous avons parfois des difficultés chez nous d'ailleurs à réfléchir sur le monde contemporain. Si nous pouvions réfléchir ensemble, et même avec votre commission, je crois que ce serait une grande chance pour nous.
C'était les travaux de la 46e session de l'Académie du Maroc, une institution qui regroupe des érudits de toutes les spécialités. Elle compte aussi dans ses rangs des académiciens des 5 continents et la réflexion est une plateforme d'échange interculturel. Au micro de Nadira Belkhoutout.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
Oh, yeah.
Pierre-Louis Alessandri a rencontré Jacques Orsoni, professeur émérite de l'Université de Corse, qui parle de son regard sur la Méditerranée dans son livre « Le ciste et le jasmin ».
C'est un tropisme anglo-saxon, alors mais je ne sais pas de quel côté étonner, le tropisme. Est-ce que c'est les pays du sud de la, enfin, de la Méditerranée qui regardent le monde anglo-saxon et qui en font un modèle? Ce que je ne crois pas d'ailleurs, hein, en partie, ils font avec, ils peuvent faire parfois semblant, mais en réalité, c'est le tropisme du monde anglo-saxon vers les pays de la Méditerranée, parce que les pays qui ont actuellement le plus de mal, ceux qui sont au-delà de la ligne de faille, qui en Méditerranée partagent le nord du sud, hein, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, et quand même tourné pour les anglo-saxons, pour les pays européens en général, vers ce sud et cet est surtout, qui recèle des richesses, essentiellement le pétrole, quoi, et qui fait que nos politiques sont quand même toujours présentes là-bas.
Ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il y a une méfiance des décideurs du nord de l'Europe à l'encontre de la Méditerranée, ces managers du Nord, écrivez-vous, qui n'aiment la Méditerranée que durant leurs vacances. Une espèce d'image qui perdure, hein, de cette Méditerranée quelque peu fainéante et qui se laisse vivre.
Ah ben, c'est une image ancienne, c'est une image qui date du 19e siècle, peut-être même avant, à savoir que tout ce qui se passe en Méditerranée pour l'instant, alors, deux choses, en Méditerranée européenne, c'est-à-dire la rive nord, là, pour les gens du nord, c'est toujours dans un climat de un peu de gabegie, de laisser aller, de fainéantise, d'agiotage. On a besoin de la morale stricte des gens du Nord pour y rétablir de l'ordre. Évidemment, ce point de vue-là plaît pas tellement à ces Méditerranéens que nous sommes d'ailleurs, hein. On considère le Sud, c'est-à-dire la rive qui va de la Méditerranée d'Agadir, qui n'est pas tellement Méditerranée, jusqu'à Beyrouth. On considère cette Méditerranée comme un lieu d'affrontement et un lieu aussi qui a toujours été d'une certaine manière l'ennemi par excellence.
Hein. On a l'impression que le Nord se venge de la Méditerranée parce que finalement elle a apporté la civilisation. C'est quelque chose qui paraît insupportable pour eux. Est-ce que c'est un peu ça par exemple ?
Moi je crois que c'est beaucoup ça. Ça se remarque même dans les politiques les plus récentes. Par exemple, la manière dont on a eu de traiter les Grecs à partir de 2008. Là, on a considéré les Grecs à la fois comme des sous-développés, à la fois comme des gens plutôt malhonnêtes, comme les chrétiens d'Orient d'ailleurs. Hein. C'est une vision jalouse, qu'il y a une jalousie, peut-être la crainte, non jamais dite, de voir se reconstituer, alors là c'est un rêve, hein, un grand empire méditerranéen qui concurrencerait un empire de l'Europe du Nord.
Quant aux rivages orientaux, vous tirez un bilan désastreux des révolutions arabes.
Non, ça n'a rien changé. Hein. Les révolutions arabes ont abattu des régimes despotiques. On a abattu ces régimes pour mettre quoi à la place?
Quel rôle pourrait jouer la place des îles aussi?
Pour l'instant, les îles ne sont qu'un poste avancé. Allez, je vais vous dire quelque chose un peu choquant peut-être, mais je ne vais pas l'emploi l'expression, des puissances européennes, blanches et chrétiennes, pensent qu'elles peuvent être considérées, qu'elles ont été un petit peu utilisées comme ça, par exemple, il y a 3-4 ans, hein, quand les grands flots d'immigration passaient venant de Syrie et d'Irak, passaient par la Turquie et traversaient la mer et s'installaient sur les îles grecques, où elles sont toujours implantées, dont on parle moins qu'on ne parle de l'Italie. Mais mon livre, en réalité, c'est de se poser deux questions. Un, économique. Deux, démographique. Que l'on soit le plus ouvert possible sur ce monde-là. Le plus ouvert possible.
Jacques Orsoni, professeur émérite de l'Université de Corse, parle de son regard sur la Méditerranée dans son livre « Le ciste et le jasmin ». Il marque le désintérêt pour cette région qui s'est fait jour après jour la chute du mur de Berlin, où l'Europe a cessé de regarder au sud, mais à l'est.
Kantara, une autre idée de la Méditerranée.
En cette période de fête, Pierre-Louis Alessandri nous invite à écouter Lettre à Babou Natale, Lettre au Père Noël, interprétée par Andialou Potentini.
Sempre a te, povra mezza li più bravi diventerà di un re. Senti o abunata, ti posso anche aiutare culla fino a San Pedrone per porgli un cordone che lo si possa zinga.
Peppi e Babbo Natale, capito?
Allora Babbo Natale, l'amico io signore, cerca di quella fa tu chi leggi il mio cuore, fallo fare una stonda, un'oretta, una giornata, anche pure una seconda, un sia che una faccata. La dolcezza di un suo sguardo è quella di esomani.
sempre pronto a tutte l'ore, quello sorriso d'amore. E se tu poi va, che ho vega fa ca, e papu e ci parla, e papu e lo tocca. Allora va una da, fa che ogni bossi sbrama. E poi lo agio per piacere fa nulla. Per piacere fa nulla.
Le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, réuni du 9 au 14 décembre 2019 à Bogota, en Colombie, a inscrit les connaissances, le savoir-faire, les traditions et pratiques associées aux palmiers dattiers sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. 14 pays arabes ont présenté la candidature du palmier dattier, qui a été retenue par l'organisme parmi 41 autres demandes. Quelle est l'importance de cette inscription et quel rôle a joué le palmier dattier dans le développement des civilisations des régions arides du monde arabe sont les questions qu'a posées Maya Dassili à Monsieur Boubacar Ouman, universitaire et militant écolo. Elle nous propose également à la fin de son interview une chanson irakienne qui illustre la culture du palmier chez les Arabes, une chanson d'Ilham Mitfahi.
The next file is Date Palm, Knowledge, Skills, Traditions and Practices, submitted by Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Sudan, Tunisia, the United Arab Emirates, and Yemen.
I declare the decision 14.10b3 adopted. Congratulations.
C'est une reconnaissance de la communauté internationale sur l'importance du palmier et de tout ce qui est autour du palmier, les savoirs, les connaissances, les pratiques, etc. Une reconnaissance internationale qui se traduit nécessairement par un appui d'ordre technique ou financier, etc. Ça, c'est au niveau international. Au niveau régional, quelle est l'importance? Parce que ce sont 14 pays arabes qui ont déposé la candidature, qui ont soumissionné par rapport à cette convention. Je considère que c'est une illustration parfaite que les pays arabes, malgré leurs différences, leurs discordances, peuvent s'unir autour d'un seul point, par exemple autour du patrimoine immatériel qui est celui du palmier. Au niveau national, nous savons que le palmier est un élément important dans le patrimoine en tant que patrimoine, mais également sur le plan économique. Ça va attirer beaucoup plus l'importance, le regard du ministère de l'Agriculture envers ce patrimoine qui est très fortement menacé par le charançon rouge. Sur le plan local, c'est encore une reconnaissance pour ces gens au niveau local. Donc l'importance de l'inscription réside dans plusieurs dimensions. Autre chose, une fois inscrit, ça veut dire que il y a eu un travail derrière tout ça. Ça veut dire qu'il y a eu une recherche, une identification, une documentation. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir ce que j'appelle une base de données numérisée sur ce palmier. Ça va inciter notre ministère, que ce soit de l'agriculture ou de la culture, à numériser tout ce savoir et ce savoir-faire et des connaissances ancestrales que nous avons sur ce patrimoine. Ce patrimoine n'est pas l'élément en soi. Le palmier, par exemple. Oui. C'est tout ce qui est autour. C'est pour cette raison que nous parlons plus de connaissances, de pratiques, de traditions et de savoir-faire. Donc, il y a une interaction entre l'élément et la population. Et la convention, quand elle parle de communauté, de groupe ou d'individu autour. Mmh. Donc elle reconnaît même la connaissance individuelle, par exemple, d'un propriétaire, d'un agriculteur, etc.
Beaucoup de menaces hein, sur plusieurs plans pèsent aujourd'hui sur ce patrimoine naturel inscrit sur une liste universelle. Comment peut-on améliorer les choses ?
Au-delà des menaces environnementales, des menaces liées à la pollution, etc., il y a des menaces en rapport direct avec le patrimoine. L'érosion du savoir et du savoir-faire. Perte d'un patrimoine comme le palmier entraîne en soi une perte et une érosion du savoir et du savoir-faire. Une déperdition des pratiques que nous connaissons et automatiquement des connaissances vont disparaître peu à peu. C'est-à-dire que la transmission de génération en génération risque de souffrir de cette érosion du savoir. Parce que le sujet en question aujourd'hui, on parle surtout de la patrimonialisation. C'est-à-dire que les connaissances, c'est dont on doit parler beaucoup plus de connaissances, de savoir, de tradition, de pratique, etc. Cette perte de connaissances et de savoir ne va pas de soi avec cette inscription. Donc l'inscription vise beaucoup plus, au-delà de l'aspect environnemental, elle vise beaucoup plus la sauvegarde de tout ce qui est en rapport avec la communauté. Le palmier, vous savez très bien qu'il symbolise la fertilité chez les berbères, etc. Dans la tradition musulmane, on sait très bien qu'il existe dans le Coran, dans 20 versets du Coran, dans le hadith du prophète Mohammed. Dans nos traditions, dans la poésie, on retrouve le palmier dans toute forme de figuration, que ce soit dans les cavernes, dans les grottes préhistoriques, dans l'histoire, on peut parler de beaucoup d'historiens qui ont parlé du palmier, Hérodote, Strabon, Pline, etc. On retrouve le palmier dans les mosaïques. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec le patrimoine. On retrouve le palmier dans tout ce qui est transformation de toutes les composantes du palmier. C'est un arbre sacré, entre guillemets. On ne perd rien du palmier. Donc il y a pas mal de choses qui sont en rapport avec ce palmier. Donc l'inscription, que signifie cette inscription? Elle signifie qu'il y a au-delà de l'élément beaucoup de choses en rapport avec la communauté. Et vous savez très bien, quand on parle de 14 pays arabes, ça veut dire que dans chaque territoire, il y a certainement une enveloppe, des dossiers de connaissances, et que grâce à cette inscription, on a aujourd'hui une base, une banque de données sur tout ce savoir.
Il y a plusieurs facteurs, et notamment des facteurs économiques, qui font qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des citoyens, et notamment des agriculteurs, qui se détachent un petit peu des palmiers. Est-ce que la convention va permettre de fournir des outils pour la sauvegarde, justement, de tout ce savoir-faire?
Oui, l'inscription, par rapport au pays lui-même. C'est-à-dire elle met en valeur ce patrimoine et elle incite la population, que ce soit locale ou nationale ou les chercheurs, à travailler beaucoup plus. Au niveau international, qu'est-ce qu'elle rapporte? Elle rapporte nécessairement à travers la convention. On peut rédiger des projets nationaux ou internationaux qui peuvent être, ou régionaux, qui peuvent être appuyés par des experts, par des dons, par des prêts. Le mot clé, ça n'appartient pas à la Tunisie, ça n'appartient pas aux 14 pays arabes. Le palmier et tout ce qui est autour comme connaissance, vous savez, c'est dit de l'humanité, ça appartient à toute l'humanité. Donc automatiquement, nous avons un devoir de protéger, non pas uniquement sur le plan économique pour le Tunisien, mais un devoir vis-à-vis de la biodiversité agronomique, vis-à-vis de la biodiversité végétale, vis-à-vis du patrimoine mondial, du savoir-faire, etc.
وبالي نيبل وحوار فوق النخل.
Kantara, une autre idée de la Méditerranée.
Nanette Ziadeh de Radio Liban 96.2 nous invite à une exposition Beyrouth-Beyrouth où elle a rencontré Fatia Ahmad, photographe, qui recourt essentiellement à la photographie dans sa pratique artistique. Elle fait des séries de paysages particulièrement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, et de portraits. Engagée dans les questions humanitaires, elle a réalisé deux ensembles autour des réfugiés au Liban. Fadia Ahmad, photographe, revisite Beyrouth avec un regard très personnel.
Fadia Ahmad est une photographe libanaise qui est née et a grandi en Espagne. De retour au pays, elle décide d'en apprivoiser la capitale dans une démarche qui relève davantage du sacerdoce que d'une simple exposition de photos intitulée « Beyrouth, Beyrouth ». Vous avez suivi un sentier de 10 452 mètres, évidemment qui rappelle les 10 452 kilomètres qui constituent notre pays. Et vous avez voulu cette symbolique très très forte parce que, effectivement, dans ces photos qu'on voit à Baie de Beyrouth, il y a tout Beyrouth. Il y a le Beyrouth loisir, il y a le Beyrouth douleur, il y a le Beyrouth blessure, il y a le Beyrouth bonheur. Il y a tout le Beyrouth, mais à travers vos yeux. Et quand je dis vos yeux, ce n'est pas votre lentille, non, c'est vos yeux. Parce que vous les avez colorés, comme vous les imaginez, vous. Alors, qu'est-ce que c'est Beyrouth pour vous, pour commencer, Fadia Ahmad?
C'est une émotion extraordinaire. J'ai vécu toute ma vie avec cette utopie qu'était Beyrouth.
Ah, qu'est-ce qui fait que vous étiez si proche de cette ville, tout en ne l'ayant pas connue? Est-ce que vos parents étaient dans la transmission, dans le dialogue continu
tout
concernant vos racines?
Tout à fait. Vous l'avez très bien décrit. C'était à travers mes parents, l'amour qu'ils avaient pour Beyrouth. Quand je suis rentrée en 1991, j'ai pensé qu'en fin de compte, j'allais rentrer chez moi, que j'allais être parmi les miens. Et vu les circonstances, vu que c'était la fin de la guerre, le début d'une reconstruction, que ce soit de la ville et de chaque être humain qui a participé malgré lui à cette guerre, j'ai fait face à des gens qui avaient mal. J'ai vécu quand même la partition parce que là, je n'étais pas au courant et c'est là où je dis que j'étais jeune et j'étais naïve. Et donc, j'ai été confrontée à des questions comme de quelle région tu proviens, quel parti politique tu soutiens, quelle est ta religion. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai entrepris mes études de cinéma à l'IESAV, à l'USJ. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis marginalisée. Avec les années, avec l'âge, avec la maturité, j'arrive aujourd'hui à l'aboutissement de cette réconciliation avec mes racines, de cet amour fou que j'ai pour Beyrouth. Et j'ai voulu l'exprimer à travers cette exposition qui s'appelle Beyrouth, Beyrouth.
Alors moi j'ai envie de vous interroger sur un terme que vous venez d'utiliser et qui est cette réconciliation. Quel cheminement avez-vous fait pour cette réconciliation? Qui n'est pas si évidente parce que finalement Beyrouth, c'est le Beyrouth déchiré, c'est le Beyrouth de la guerre. Quand on est à l'étranger, c'est surtout ça qu'on voit. Puis après, on vous cite en exemple de coexistence. Et quand on est à l'étranger, on ne sait pas combien cette coexistence est fragile.
C'est exactement pour cela que j'ai entrepris ces 10 452 pas chaque jour. Malgré les saisons, malgré les années, c'est un projet qui a duré quand même entre 6 ou 7 ans. C'était une sorte de psychothérapie pour moi. C'était ma psychothérapie à moi personnelle, envers mes racines et envers moi-même. Avec le contact avec le sol, le contact avec cette architecture, le contact avec ces quartiers. Et c'est la seule manière pour moi que je pense évidente et unique pour une réconciliation. Parce que quand on est dans ce contact, je vais le nommer un peu charnel, c'est là où ce processus commence à voir le jour. C'est là où on se rend compte que dans la rue, on est tous pareils.
Alors Beyrouth, tel que vous l'avez vu avec ces yeux-là, c'est un Beyrouth qui joue aussi les paradoxes et qui joue les contrastes. Vous avez fait se juxtaposer le Beyrouth d'hier avec le Beyrouth d'aujourd'hui, comme si vous aviez vécu vous-même ces blessures.
Je les ai vécues en quelque sorte à distance, mais je les ai quand même vécues. Et c'était très important pour moi durant mon processus de dire que effectivement, on a eu un hier, on a eu un passé, on a eu des blessures et qu'elles sont là, elles sont visibles partout quand on se balade dans Beyrouth. Mais que malgré ça, on a cette force de se reconstruire, cette force d'aller de l'avant, cette force d'oubli qui est extraordinaire. Beyrouth m'a montré que dans l'imperfection, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, de beau.
Il y a justement dans cette exposition de photographie une espèce de mélange, qui est le mélange aussi très béroutin, d'une amnésie thérapeutique, si j'ose dire, en même temps qu'un devoir de mémoire.
Je suis convaincue que c'est de cette seule manière qu'on peut avancer.
Beyrouth, je te parle, et toi tu restes sourde. Beyrouth, je te regarde, et ne te reconnais plus. Beyrouth, que mon amour, tu t'évanouis et disparais. Beyrouth, tu te perds et me perds avec toi. Catin ou courtisane, tu te caches derrière ton masque de femme féline. Beyrouth, ma capitale, tu me subjugues par ton histoire et par ton âme qui résiste malgré tout. Et à tout. Beyrouth courtisane d'aujourd'hui, tu déguises à ta guise les âmes esselées. Tes habitants te ressemblent, ne ressemble plus à rien. Et c'est tellement triste. Silicone tour des plus démunis, tu te perds désormais entre tous tes bars, tes ruelles sinueuses qui n'ont plus pour âme que le souvenir des plus nostalgiques. Beyrouth, tu te perds et me perds avec toi. Beyrouth, mon amour, si attachante pourtant, tant d'autres te guettent, te recherchent et se souviennent. Beyrouth, résiste à l'occupation. Résiste, Beyrouth, s'il te plaît, et demeure.
Et du regard artistique féminin, on passe à la traduction féministe. Mais qu'est-ce qu'une traduction féministe ? Est-ce un nouveau courant ? Réponse avec Touraya Fili Toulon, maîtresse de conférences à l'université Lyon 2, spécialisée en littérature francophone et comparée, et traductrice féministe. Au micro de Mona Farid de Radio Le Caire, qu'il a rencontré dans le cadre d'une conférence donnée à l'IFE.
Je suis Touraya Fili Toulon, je suis maîtresse de conférence à l'université Lyon 2 et je suis spécialisée en littérature francophone et comparée. J'interviens également dans la traduction féministe dans le master de traduction édition critique à Lyon 2 et dans le groupe de Félicité, qui est un groupe de chercheurs de différentes universités autour des féminismes, de leur transmission et de leur traduction.
Donc traductrice ou féministe ?
Les deux, traduit féministe. Je ne préfère aucun parce que depuis quelques années, je ne peux plus traduire que en tant que féministe. C'est-à-dire, c'est un engagement politique. Et une fois qu'on entre dans... C'est comme entrer dans, en religion. On ne peut plus faire marche arrière.
Et c'est quoi exactement la traduction féministe ?
Alors, la traduction féministe, c'est une manière de penser le texte traduit de manière à ce qu'il reflète un projet féministe, c'est-à-dire un projet égalitaire pour les femmes. Alors, ça peut se traduire sur, au niveau de la langue. Par exemple, on féminise la langue en y mettant non pas ce masculin universel, mais les pronoms féminins également. Et ça peut se traduire sur la place de la traductrice ou du traducteur que l'on reconnaît, c'est-à-dire son nom doit apparaître sur la couverture. Il doit écrire une préface qui reflète son projet. Il ou elle doit s'affirmer parce que la traduction n'est plus considérée simplement comme une copie ou comme quelque chose de secondaire. Elle est considérée véritablement comme une écriture, comme une création à son tour. Donc traduire féministement, c'est traduire des textes qui étaient considérés par un ancien canon normatif considéré comme mineur. Et donc c'est redonner de la valeur à ces textes et montrer qu'ils répondent aujourd'hui à une attente. C'est aussi traduire un texte en transformant les rôles de domination, en les rééquilibrant, par exemple, en donnant aux femmes des rôles beaucoup plus positifs que ceux qui apparaissaient dans des textes littéraires anciens. Autrement dit, c'est une manière de réinterpréter une vision qui cherche à être égalitaire pour les femmes.
Vous parlez également de traduction et distraduction.
Oui.
Quelle en est la différence exactement ?
Alors, la distraduction ou distraduire un texte, c'est le transformer. On prend des textes qu'on considère comme offensants, c'est-à-dire qui donnent à la femme des rôles mineurs, des rôles de dominée ou des rôles même parfois insultants, et on va les retraduire, non pas en inversant les rôles, on ne va pas mettre l'homme dans la posture négative, mais simplement en rééquilibrant les rapports de force. C'est une manière d'agir véritablement sur les représentations des femmes qui circulent dans la littérature.
Et c'est ce que vous considérez traduction productive ?
Absolument, c'est ça ce que l'on considère comme une traduction productive, c'est une traduction qui ne cesse de s'interroger sur elle-même, qui est aussi réflexive. En fait, la réflexion a commencé dans les années 80, et c'est Laurie Chamberlain qui a la première identifié des métaphores misogynes pour désigner la traduction, comme les belles infidèles, etc. Et pour ce qui est de la traduction féministe, elle a commencé aussi dans les années 80 avec Spivak aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France et dans le monde arabe, elle est plutôt récente. Je vous donne le cas, bien sûr, de l'Égypte. Vous avez Hella Kamel qui traduit des textes anglais en arabe ou des textes arabes en anglais depuis quelques années déjà, qui participe à des projets féministes et qui se revendique comme traductrice féministe. Donc il n'y a pas encore dans le monde arabe, dans les pays arabes, il n'y a pas encore beaucoup de traductrices comme elle. Et pour le français, je n'en connais pas. C'est effectivement un chantier. En fait, le féminisme n'est pas quelque chose d'essentiel aux femmes. Un homme peut tout à fait être ou se revendiquer comme féministe. Et la traduction, c'est-à-dire le produit, s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors, bien naturellement, il concerne les femmes, comme dit Hella Kamel, plus, puisque c'est elles qui ont tout à gagner. Mais il y a des hommes qui défendent les femmes, parce que ce sont leurs femmes, leurs épouses ou leurs sœurs ou leurs filles. Ils ont des filles et ils veulent un statut meilleur pour les femmes. Donc, il y a des hommes féministes.
Docteur Touraya Fili Toulon, je vous remercie infiniment pour cette intervention.
C'est la fin de ce compte à rats. Merci d'être des nôtres. Cette édition a été réalisée par Dina Demeki de Radio Le Caire. Je vous rappelle que compte à rats est le fruit d'une large coopération avec Radio Extérieure d'Espagne, France Bleu RCFM en Corse, chaîne Interaba, Radio Tunis, chaîne internationale, Radio Liban 96.2, Radio Palestine internationale et Radio Le Caire. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre page Facebook pour y retrouver nos reportages et pour écouter ou réécouter votre compte à rats. Au revoir, à la semaine prochaine.